Nous allons passer du football féminin au rugby. C'est la fin du tournoi des 5 nations. 6 nations maintenant. Et puis, la fusion du Racing et du Stade français a échoué. Ça nous a donné envie de revenir en arrière.
Oui, oui, mes enfants. Allez, les petits. C'est magnifique. Oh, vive la France.
1977, un grand chelem homérique.
C'est l'heure où les coqs vont manger. Ils semblent les uns et les autres doués d'un robuste appétit. Le menu qu'il aurait proposé, je vous le soumets, ça peut vous intéresser. Ils ont commencé par des crudités, ils continuent par des côtelettes d'agneau, ils en sont aux pommes de terre et à la salade. Il y aura des fromages, le tout arrosé de vin rouge qui vient des côtes du Rhône.
Roger Couder et Georges Decaune, tout le monde est là. Et les 15 garçons qui remportèrent d'un trait le tournoi des 5 nations cette année-là, ce n'étaient pas des hommes, en effet, c'était des chairs d'assaut. Ils mangeaient comme 60, n'étant pas professionnels, ils n'avaient pas de temps à consacrer à la diététique, ni non plus à la mathématique du jeu, pas davantage à l'apprentissage de l'anglais. Le président de la fédération de rugby lui-même ne connaissait pas davantage l'anglais. C'était un radical socialiste d'Agen, où on ne le parlait guère, et pour être reçu royalement dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, il n'avait pas besoin de parler la langue. Mais trêve de polémique. En ces dernières semaines de l'hiver 1977, des dizaines de milliers de spectateurs au nez rougi par le froid et des millions de téléspectateurs chauffés par Roger Couder crient « Allez les petits !» Et le 19 mars, c'est l'ultime victoire contre l'Irlande. Thomas Bosflugh, dans un article de Marianne, à qui nous empruntons notre titre, finit par écrire « À court d'épithètes, ce fut une comète dont on ne sait pas si elle repassera jamais ». En réalité, 1977, ce n'est pas seulement une victoire, c'est le début d'une transition. Depuis Agen, le président Ferras continue de s'arc-bouter sur l'amateurisme, mais les membres les plus remuants de l'équipe de 1977, auréolés de leur palmarès, vont constituer une sorte de club souterrain qui indiquera des voies nouvelles et accompagnera les évolutions inéluctables du rugby.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Denis Soula, bonjour.
Bonjour Jean.
Vous avez publié plusieurs livres sur le rugby chez Autrement. Le rugby français existe-t-il? Si vous êtes un sportif accompli, ce dont je ne suis pas sûr, vous êtes au fond un homme assez complet parce que vous avez publié d'autres choses que des livres sur le sport.
Oui, des romans. Chez...
Et puis vous faites de la radio.
Un peu.
Et le sport?
Pas autant qu'à une époque.
Ouais. Qu'est-ce que disait votre tante?
Qu'un homme accompli était quelqu'un qui avait un enfant, qui avait planté un arbre et écrit un livre.
Bon, ben, je vois que vous avez bonne mémoire. Alors, tenez, j'ai testé votre mémoire. Mars 1977, je vous donne des résultats importants. Fisbin, 32. Dornano, 22. Brice Lalonde, 10. Michel Jobert, 2,3. Jean-Marie Le Pen, 1,8. Ça vous évoque quoi?
Les municipales. Et
les municipales à Paris?
Oui, et la conquête de l'hôtel de ville par Jacques Chirac.
Oui, parce que j'ai mis un piège dans le piège. Je n'ai pas donné le nom de Jacques Chirac. Il fait un peu plus que Dornano, le candidat de Giscard d'Estaing, et il va s'installer pour une longue durée, un peu comme Ferras à la Fédération de rugby, à l'hôtel de ville de Paris. Mais si on parle, vous qui êtes un homme complet, d'autre chose que de sport et de politique, 77, ça vous évoque quoi?
Les Sex Pistols, c'est la vague punk qui arrive en Angleterre et les Clash, les Sex Pistols, les Buzzcocks.
On a choisi d'ailleurs un morceau qui les évoque très bien.
Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac pour Paris,
Chirac pour Paris,
tous unis. Avec Chirac pour Paris, 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 unis pour Paris.
Que le seul Chirac. Si j'interroge votre mémoire rugbystique maintenant, vous avez suivi de près le grand chelem, le dernier, qui est connu les Français, 2010, vous pouvez me donner la liste des joueurs?
Non.
Comment non? Mais vous étiez avec eux.
Oui, j'étais avec eux pendant 4 ans et avec mon camarade Olivier Villepreux. Et Je serais incapable, alors que c'est à la fois plus proche, que c'est des jeunes gens très sympathiques d'ailleurs, mais ils étaient trop nombreux. Genre, ils ont au moins été une vingtaine ou 25 à jouer pour
cette Tandis que ceux de 77, ils ont été 15 du début jusqu'à la fin. Personne ne s'est fait remplacer, même quand l'un a failli être opéré de l'appendicite avant la finale. Vous aviez 11 ans et vous pouvez donner la liste?
Ah oui, facile.
Alors allez-y.
Cholet, Paco, Paparambord, Palmier, Bernon en deuxième ligne, Rives, Créla en troisième ligne avec Bastia, Jacques Fouroux, demi de mêlée, Jean-Pierre Romeu à l'ouverture, et puis Arise qui remplaçait Guy Noves, qui aurait dû jouer ce grand chelem mais qui n'était pas remis de sa blessure à l'aile, mais qui est quand même de Toulouse, donc ça va, l'honneur est sauf.
Ils étaient deux de Toulouse, trois.
Il y avait Rives, Scrella et donc Arise. Et puis ensuite au centre, il y a Sangali et Bertrand, Averrousse sur l'autre aile et Jean-Michel Aguirre à l'arrière.
Bravo. Qu'est-ce que c'était le tournoi il y a 50 ans? Il n'y avait même pas de trophée.
Le tournoi n'existait pas. Ah. C'est ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu une société commerciale avec une ligue fermée qui interdit aux Géorgiens d'y participer alors qu'ils auraient largement sportivement leur place. Et à l'époque, ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est les joies du rugby tel que les Anglais l'ont inventé. C'est une époque où les fédérations se lançaient des invitations. Est-ce que vous viendriez nous rencontrer en janvier? Oui, pourquoi pas. Et l'an prochain, on ira chez vous. Le classement, en fait, c'est les journalistes qui le donnent. Ils donnent 2 points par victoire. Il n'y a pas de goal average, il n'y a pas de victoire ou de...
Il y a juste la cuillère en bois pour le plus
mauvais. Et le grand chelem, c'est-à-dire les deux seules choses dont on se rappelle.
La meilleure équipe à ce moment-là, c'est le Pays de Galles, non?
Oui, le Pays de Galles, c'est... Là aussi, c'est une équipe rock'n'roll. Ils ont des cheveux longs, des roues flaquettes. Gareth Edwards, J.P.R. Williams, ils sont les enfants les adorent. Et c'est la meilleure équipe du monde, même meilleure que les All Blacks. Mais pendant les années 76, 77, 78, les Français vont pas être très loin. Ils vont perdre 2 fois de peu et gagner 1 fois en 77 contre eux.
Alors c'est le premier match. Gare à la Galle de Bois, je parle... sous le contrôle de Roger Coudert, 50 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs au Parc des Princes.
Vous voyez qu'il y a des Gallois, Carlib, Metz, ils sont là aussi, ils ont économisé dans ce pays pauvre mais fier pendant des semaines, des mois et des mois pour avoir de quoi venir en France pendant 24 heures pour assister à ce match. Je les ai vus, ils me l'ont dit, dans des pubs là-bas, dans la vallée de la Ronda. Ils sont venus, ils sont quelques milliers à Paris, pour venir encourager leur équipe par les Gallois. Pierre, vous êtes bien d'accord, craignent ce match contre la France. Et maintenant, nous attendons l'entrée des joueurs, qui est peut-être quelque peu retardée, parce que nous plaisantions tout à l'heure, mais ce n'est pas une plaisanterie. Il manque à la France 2 paires de chaussures qu'on leur a volées, du 48. Et ça, c'est pas tellement facile à trouver. Mais voilà les Gallois qui rentrent. Entrée des Gallois en rouge avec Phil Bennett en tête. Capitaine. Quelle allure. Et voici l'Enzo Juan Fazer, l'hymne gallois. On se croirait à l'Amsterdam.
Il n'aurait pas God Save the Queen, même pas celui des Sex Pistols. Qu'est-ce que c'est alors? Question naïve toujours, Denis Soulal, la Fédération Française de Rugby en 77.
Alors là, elle est gouvernée par ce qu'on appelle les par-dessus, du nom des impairs et des manteaux qu'ils mettent dans les tribunes pendant que les joueurs sont en short. Eux, il faut dire qu'ils ont pris, il faut pas qu'ils prennent froid parce qu'ils ont beaucoup mangé à midi. Ils ont fait un très bon banquet, ils ont sans doute bien bu, ils ont reçu leurs homologues des autres fédérations et ils font la sieste pendant le match, donc avec un par-dessus, c'est pratique.
Mais quand même, Albert Ferras, qui est président depuis seulement une petite dizaine d'années, n'est pas un vieillard.
Non, c'est un homme qui doit avoir... Oui, le problème, en fait, c'est que ces gens ont toujours eu l'air vieux parce que non seulement ils étaient plus âgés que les joueurs ou les jeunes gens qui faisaient du sport, mais en plus, ils avaient quand même une...
Ils étaient un peu épaissis.
C'était la vieille France, radicale socialiste.
Ferras tente de donner régulièrement, néanmoins, une apparence de sérieux dans chacun de ses propos.
Je pense que nous sommes une fédération de gens sérieux, que les dirigeants qui nous entourent, dans leur grande majorité, vous voyez, je fais une petite réserve, le sont aussi. Il faut que ça reste un sport, comme vous le savez, d'esprit amateur. Et pour ça, il faut tenir sérieusement les rênes à tous les niveaux, au niveau fédération, au niveau comité, au niveau club. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, car le temps passe vite, hélas.
Et le trèfle du groupe Zangon, rebelote. Ah ben, alors je pisse, hein. Et un coup d'atout. Voilà, ben, et du cœur.
Ah, du cœur. Voilà. Toujours l'homme.
Et du cœur toujours.
T'es celui-là.
Et voilà, il est bon. Voilà, et voilà, nous avons gagné notre bon.
Ça fait laisser, là. Ah, ça fait laisser.
11, 14, 25. On a mis une ambiance de bar, c'est pas par désir d'être facétieux, c'est parce que le siège de la Fédération française de rugby, c'était le fair play, un bar d'Agen.
Oui, c'est la partie, c'est pagnolesque. Mais c'est vrai que Ferras, il était un peu pagnolesque. C'est quelqu'un qui l'a échappé belle parce que quand il avait 20 ans, il a failli y jouer au ping-pong et il a failli participer au fameux contre-jeu de Barcelone en 37 qui finalement ne se sont pas déroulés. Donc, avant de réintégrer une vie plus normale, plus classique, et de reprendre l'entreprise à Agen et puis de monter, de devenir
C'était
joueur.
Son bar, le fair play.
Je ne sais pas si c'était son bar, si, mais en si, tout cas, crois, il y allait tous les après-midi jouer à la belote. Et le destin du rugby français, c'est toujours décidé là.
Vous dites que c'est pagnolesque, c'est aimable pour le Sud-Est, parce que le rugby de l'époque, c'est le Sud-Ouest.
Oui, c'est beaucoup le Sud-Ouest. Hein, c'est des villes qui ne sont plus du tout en top 14, c'est-à-dire la première division, des villes comme Bagnères, Pau, Tarbes, Lourdes, La Voulte.
La Voulte c'est plus au nord. Le Sud-Est.
Oui, oui, mais en fait, c'est vraiment le Sud-Ouest.
Parce que sur les 15, il y en a 13 qui sont du Sud-Ouest, dans les clubs du Sud-Ouest.
Oui, il y a Jean-Luc Averroux, donc qui joue à La Voulte. Jacques Fouroux y a joué, mais quand à l'époque de 77, je crois qu'il est déjà revenu à Auch. Et puis il y a Montferrand. Clermont-Ferrand ou Jean-Pierre Romeu, mais qui a toujours été une ville où il y a eu du rugby.
Et Béziers a des représentants dans l'équipe ?
Oui, il y a Alain Paco, talonneur, très fin.
Parce que le grand club, c'est Béziers.
Oui, Béziers règne sur le rugby français avec à sa tête Richard Astre, qui est de Toulouse pourtant, mais qui a été joué à Béziers. Et il devrait normalement jouer, mais c'est Jacques Fouroux qui a la place. Et puis il y a aussi Michel Palmier, qui est un second de ligne, c'est Obélix, quoi. Et qui est aussi de Béziers.
Alors Fouroux, il faut que vous nous en parliez un peu. On l'appelait le petit caporal.
Oui, le petit caporal, oui, c'est Napoléon, quoi. C'est quand on le voit au milieu de ces grands bonshommes. En fait, c'est un meneur d'hommes. C'est pas le joueur le plus esthétique. C'est pas le plus fin. Ça, c'est Richard Astre qui a la classe. Mais lui, par contre, c'est ce qu'on appelle un leader, un meneur d'hommes. Et toute sa vie, il a été un meneur d'hommes. Et il s'est fâché avec tout le monde, réconcilié sur la fin avec tous. Mais c'est un sacré personnage, oui.
Mais c'est pas lui l'entraîneur.
Ouais, pratiquement, il y a ce qu'on appelle, alors c'est intéressant parce qu'à l'époque, l'entraîneur du 15 de France, c'est quelqu'un qu'on appelle un homme de terrain. On veut pas l'appeler entraîneur parce que, on sait pas pourquoi, parce que il y a une époque où les Anglais interdisaient aux équipes nationales de s'entraîner trop. Parce que ça devait rester amateur. Donc déjà, on réunissait les équipes 2 jours avant, maximum. Mais il fallait pas trop s'entraîner. Et donc, l'homme de terrain, c'est Toto Desclos. Mais le vrai meneur, c'est Fouroux.
Fouroux qui parle ici de Toto Desclos, de Dax.
Nous étions une force immanente, un truc extraordinaire qui vous prend aux tripes. Et on se retrouvait, c'était là la communion. La communion, voilà, le mot-clé, il est là. Il y avait communion. Et dans le vestiaire... Voilà, sur le sol du vestiaire, un magnétophone, vous savez ce que c'est, un magnétophone, un petit engin comme ça, dans lequel on a glissé une petite cassette. Et c'était Nabucco de Verdi, le chant des esclaves. Et on se tenait comme ça, tous en cercle, avec Toto Desclos, qui avait été l'inventeur de... Pas ce stratagème, parce que, vous voyez, quelques années après, 30 ans après, je vous en reparle, personne ne savait ça. Vous voyez qu'il y avait 15 mecs là qui étaient prêts à, j'allais dire à mourir. N'exagérons pas, mais c'était chaud quand même.
La marche de l'histoire. France Inter. Jean Lebrun.
Non pas les esclaves, les vedettes de 1977, les 15 de l'équipe de France qui a remporté le grand chelem dans le tournoi des 5 nations. Nous sommes en compagnie de Denis Soula. On pourrait peut-être descendre l'autre versant. Il disait, Foroux, aux journalistes, comme vous, « Messieurs les journalistes, il vous reste peut-être encore un peu de vitriol et on pourrait boire à votre santé. » Parce qu'ils étaient très critiqués en même temps par les journalistes de rugby, les membres de cette équipe.
Oui, le rugby, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce sport, à des guerres de religion qui ont trait aux jeux pratiqués. Soit on aime le jeu à la Boniface, Jomazo, Pierre Villepreux, des gens qui ont... Jean Triot, enfin des gens, ou Didier Codorniou, Thomas Castagnel plus tard, c'est-à-dire une lignée de gens qui aiment jouer au rugby en se faisant des passes. Soit on aime les combats d'avant. Et à chaque fois qu'on essaye de mélanger, enfin on pourrait essayer d'ailleurs, mais à cette époque, Foroux est accusé de mener ce qu'on appelle une horde sauvage. C'est les Anglais qui ont trouvé le terme. Hein, lorsque les Français sont venus jouer en Angleterre, où ils ont gagné 4-3, ils se sont fait appeler la horde sauvage arrive. Et donc c'est des querelles en fait stratégiques, tactiques. Est-ce que on joue fermé ou est-ce qu'on joue ouvert? Bon, c'est des débats qui permettent aux gens de faire les troisièmes mi-temps, de refaire le match. Est-ce qu'on a assez ouvert? Est-ce qu'on n'a pas assez ouvert? Mais c'est bien parce que ça permet de très longues nuits et puis voilà, et ça occupe le tournoi qui nous occupe aussi le temps de l'hiver.
Tout de même, Denis Soula, il n'y a pas que des erreurs dans ce que disent les tabloïds d'Angleterre quand l'équipe vient jouer à Twickenham. Je vois que Palmier, l'un des deux Biterrois, il était réputé pour traiter l'adversaire à la fourchette.
Oui, mais ils avaient l'appétit,
C'est-à-dire les deux doigts dans les yeux.
Oui,
de l'autre.
Il a des grands doigts. Hein. Moi, je serrai quelquefois la main de Michel Palmier. Vous pouvez mettre votre main, la mienne, celle de toute l'équipe derrière en régie. Et encore, c'est lui qui vous broie la main.
Oui, mais alors Chollet, lui, c'était plutôt la technique, cette année-là, du poing fermé. Paf, il sort d'une mêlée, et coup de poing qui met KO l'Écossais en face.
Oui. Là, on est chez Audiard, c'est-à-dire que Chollet, c'est l'anesthésiste. On a tout compris.
D'accord. Ouais, ouais.
C'est les tontons.
Ils avaient tous un métier?
Oui, c'était une époque. Ils avaient tous une occupation, au moins. Ils avaient des bars, ils travaillaient à la jeunesse et au sport de leur ville. Certains avaient une ferme, une exploitation agricole, ou ils travaillaient à la poste, à l'EDF. Il y a beaucoup de joueurs de rugby qui ont joué à l'EDF. L'équipe de l'EDF aurait battu l'équipe de France dans les années 60, à l'époque de Crost.
Vous parliez des troisièmes mi-temps, mais c'était pensable de finir de déjeuner à 16h et de prendre une collation avant le match?
Non, ça c'était... la collation et le repas de Pantagruel, c'était... ils se retrouvaient le mercredi parce que ils étaient... En principe, ils devaient revenir le mercredi soir. Ils avaient rendez-vous le mercredi soir à la Fédération. Et en fait, ils se réunissaient à midi à l'Enclos de Ninon, un restaurant de la Bastille. Et là, ils se retrouvaient. Ben, ils se retrouvaient, donc pour se retrouver, quelques verres sont nécessaires.
Je veux dire qu'il n'y avait pas de technique de diététique qui était mise en avant.
Non, mais c'était plus du mental.
Et non plus de mathématiques qui étaient enseignées.
Non, mais parce que il n'y avait pas vraiment de mathématiques. Il y avait des penseurs, hein, des gens comme Jean-Claude Scrella, par exemple, qui était un homme de la terre, mais très, très tôt, il a réfléchi sur le jeu. Jean-Michel Aguirre aussi, Paco aussi, mais bon, c'est une histoire d'homme, hein, là, c'est-à-dire, ils ne voulaient pas perdre, quoi. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient tellement critiqués par la presse et par la fédération en 77, qu'ils savaient que s'ils perdaient un match, l'équipe serait détruite. Ça les a unis.
Une histoire d'homme, une histoire d'attelage au labour, dit lors du dernier match de ce tournoi, France-Irlande le 19 mars, Roger Coudert.
Et regardez, au-dessus des joueurs, il y a une sorte de brouillard de fumée, comme des bœufs au labour. Ils ont dû forcer tous, et ils chauffent en même partie. reste dans la mêlée, il y a le chauffage central. Là,
mais oui, il y a 3 minutes que le match est fini. Sortie française. Borros, Romeu. Aguirre, en côté fermé, qui joue très bien ici avec Harris. Décalé.
Oh là là.
Eux aussi font la paire, le Baladejo et Coudert. Alors, que sont devenus ces joueurs? Et à vous lire parfois, Denis Soula, on a l'impression qu'ils ont constitué, je ne sais pas quel mot utiliser, un lobby, une franc-maçonnerie,
un club.
Quelque chose qui ressemble aux Barbarians, ce club où on s'élit soi-même.
Les Barbarians, c'est une équipe anglaise qui n'a pas de club, pas de vestiaire, mais qui se réunit de temps en temps pour jouer des matchs amicaux. Et dans la foulée, c'est Jean-Pierre Rive surtout qui a voulu que l'équipe de 77 reste unie par quelque chose. Et donc, il a décidé de créer les Barbarians français, dont il est toujours président, une espèce de président. Jean-Pierre Rive président, c'est un drôle de terme, mais dont il est l'âme, l'inspirateur, et qui cette équipe-là s'est retrouvée de loin en loin pour partager des repas, mais aussi pour partager non pas le pouvoir, mais pour influencer la fédération. Par exemple, lorsqu'il s'est agi de remplacer Pierre Berbizier en 1995, Jean-Pierre Rive a soufflé au président de l'époque, Bernard Lapassé, qui avait pris la place de Ferras, le nom de Jean-Claude Scrella, en disant, bon, ce serait pas mal, Jean-Claude. Et ce n'est pas que du copinage, parce que Jean-Claude, c'était exactement l'homme qu'il fallait, puisqu'il avait remporté trois titres de champion de France avec Toulouse, donc il était l'homme idoine. Mais voilà, on dit que c'est Jean-Pierre Rive qui a soufflé le nom de son camarade.
Quelques-uns sont devenus entraîneurs, si du moins le mot entraîneur pouvait être utilisé, après 1977, peut-être plus facilement qu'avant.
Oui, des gens comme Alain Pacaud, comme Jean-Claude Scrella. Et alors les autres, ils ont fait des choses rigolotes. C'est-à-dire que Jacques Fouroux les a embringués dans des histoires de vente de foie gras et de cassoulet.
Oui,
il a essayé des choses comme ça, c'est drôle.
Attendez, il a été entraîneur lui-même, Fouroux.
Oui.
Du 15 de France,
oui.
Soi-même.
Voilà ça, garde le ballon. Non, tout droit va pousser. Attention, flexion. Ouais, ça marque à droite, ça marque à droite. Ça vient à droite, et allez, on l'échelle. Et on l'échelle, voilà ta voix. Tu le vois, tu le vois, tu vois comme ils sont placés, tu es le seul. Tu es libéré par le lancer, tu vois tout le jeu. Prends au joue. Bien joué à la lutte, à la lutte, non, qu'est-ce que c'est ça? T'es tout seul, qu'est-ce que c'est ça? Ou alors ici le ballon. Et ici il tombe. Et on va te passer dessus et tu vas offrir un ballon. Là tu te fragilises sur un tampon. On la jambe, le dernier ramasse là. Structure avec moi ici, là, regardez, là encore. Ici, face au jeu. Debout, reste debout, et mets le ballon derrière. On attaque. Et on part pas à gauche, on part pas à droite. D'abord on se structure. D'abord on attaque, on se fait flexion. Comme une mêlée. On pousse droit d'abord et après l'orientation va se donner toute seule. Alors que là, chacun veut passer. Lui, il a récupéré le ballon derrière, il a voulu repasser dedans. Qu'est-ce que c'est ce bordel?
C'est plein d'enseignements, hein, cet enregistrement dans un documentaire de Maxime Boilon.
Oui, c'est quand même un personnage. Je l'ai rencontré au soir de sa vie avec mon camarade Joël Spendel à Auch, dans l'arrière-salle d'un bar qu'il avait fait ouvrir parce qu'il était fermé. Les chaises étaient à l'envers. Et c'est quelqu'un qui est capable de vous faire rire et pleurer en trois phrases. Quoi. C'était un conteur, c'était un bretteur, c'était vraiment le Gascon dans toute sa splendeur. Et vraiment, c'était une gueule. Il y avait quand même des gens à l'époque dans le rugby français qui avaient de l'épaisseur.
Ils ont joué un rôle, tel ou tel d'entre eux, dans la remontée des clubs parisiens, des clubs d'origine du championnat. Championnat, c'était la première année, livré en finale entre le Racing et le Stade français. Et donc, Papa Rambord, par exemple, il est monté à Paris?
Oui, il est monté à Paris pour rejoindre Jean-Pierre Rive, qui était une des premières vedettes vraiment du Casque d'Or, hein, on l'appelait Casque d'Or, le Blond. Jean-Pierre Rive est monté de Toulouse à Paris, comme beaucoup d'autres, et pour ses activités professionnelles. Et donc, il a joué au Racing. Et Papa Rambord, avec qui il était très très ami, c'était vraiment un frère d'âme, l'a rejoint au Racing. Tous les deux, ils ont remonté le Racing. Ils en ont fait, avec Papa Rambord à sa tête, plus tard, ils ont reconquis un titre. avec des gens comme Franck Ménel, Jean-Baptiste Lafont. Et puis ensuite, Jean-Pierre Rive a conseillé Max Guasini, lorsqu'il a repris le Stade français, il lui a conseillé d'aller voir le Stade français, et qui à l'époque végétait en, je sais pas, 5e ou 6e division du rugby. Et il l'a remonté avec ce conseil. Le rugby, c'est la cravate et le blazer.
Casque d'or et blazer bleu. Alors, on a beaucoup parlé de ces deux clubs parisiens, puisque un projet de fusion vite avorté a été annoncé par les deux hommes d'affaires qui dirigent l'un et l'autre. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il, Denis Soula ?
Oh, c'est guignol. C'est tout à fait dans la tradition de l'amateurisme des gens qui prétendent s'occuper d'un jeu aussi invraisemblable et aussi, aussi incroyable que le rugby, avec un ballon ovale, donc où on ne sait pas le rebond s'il va partir à gauche ou à droite. Donc là, en effet, il y a des hommes d'affaires de temps en temps qui essayent de s'occuper d'une manière sérieuse d'un jeu qui, heureusement, ne l'est pas tout à fait.
Mais enfin, il est question de modèle économique. Dans le rugby, 40 ans après le Grand Chelem, il faut bien parler investissement. Vous en avez, vous, un ou deux modèles économiques qui mériteraient, à vous entendre, d'être privilégiés ?
Ceux, par exemple, du club de Clermont-Ferrand, l'ASM Montferrand, géré, adossé à Michelin, mais formidablement bien géré. Celui de La Rochelle aussi, exemplaire, parce qu'un club qui est monté lentement et puis qui arrive maintenant à maturité. Puis celui du Stade Toulousain, notamment à l'époque où il était dirigé par Jean Fabre, qui était un vrai modèle intéressant de développement comme il faut.
Le rugby français existe encore, c'est une réponse tardive en écho au titre d'un livre que vous aviez publié chez Autrement avec Villepreux et qui s'intitulait « Le rugby français existe-t-il encore ?» Cette émission a été préparée par votre camarade Franck Olivard, la technique c'était Florent Layani, la réalisation, une camarade à vous aussi, Valérie Estaraï. Merci à vous Denis Soula.